Chapitre 23. Des poules et des coqs s'égayèrent en tous sens pour laisser passer la petite colonne qui escortait Callan Richard dans le village du peuple d'Adobe. Installé sur une des petites buttes qui tenaient lieu de colline dans le pays sauvage, le hameau était composé de bâtiments aux épaisses cloisons en briques d'adobe couvertes d'une couche d'argile ocre. Les toits de chaume fuyaient dès qu'ils séchaient et devaient être constamment remplacés pour empêcher la pluie de passer. Richard remarqua qu'il y avait de solides portes en bois et des fenêtres sans vitres. En guise d'isolation, certaines étaient protégées par des rideaux grossiers. Disposées en cercle autour d'une place centrale, les habitations occupaient la partie sud du terrain, et elles semblaient juste assez grandes pour abriter une seule famille. Étroitement serrées les unes contre les autres, la plupart avaient un mur mitoyen. De ci, de là, des passages étroits serpentaient entre ces résidences. Les bâtiments communs étaient groupés au nord de la zone. Les structures qui se dressaient à intervalles irréguliers à l'est et à l'ouest séparaient ces deux blocs principaux. Richard vit de simples carrés de bois surélevés délimités par quatre poteaux et munis de toits de chaume, probablement les endroits où on dînait, travaillait le fer et l'argile et faisait la cuisine. Quand il ne pleuvait pas, une nappe de brouillard mêlée de poussière enveloppait le village, agressant les yeux, les narines et la gorge de ses habitants. Pour l'heure, tout avait été lavé par les averses, et les milliers d'empreintes de pas dans le sol composaient autant de minuscules flaques d'eau où se reflétaient les bâtiments grisâtres. Dans les aires de travail, des femmes vêtues de robes aux couleurs vives concassaient les racines de tava dont elles tiraient le pain plat qui constituait la base de l'alimentation du peuple d'Adobe. Une fumée aux senteurs appétissantes s'élevait des feux de cuisson. Des adolescentes aux cheveux courts bouclés, enduits d'une boue épaisse, aidaient leur mère ou leur sœur aînée. Callan remarqua que les jeunes filles la regardaient à la dérobée. C'était pareil à chacune de ses visites. Pour ces gamines, une voyageuse comme elle, qui avait vu tant de pays et de choses étranges, était un objet de curiosité. De plus, les hommes du village la respectaient. Compréhensives, les femmes plus âgées toléraient de bon cœur ces instants de dissipation. Des enfants accouraient de tous les coins du village pour découvrir les étrangers que Savidlin et ses compagnons avaient ramenés. Ils se massèrent autour des chasseurs, si excités que leurs pieds nus martelaient la boue, éclaboussant copieusement les hommes. D'ordinaire, ils s'intéressaient aux proies qu'ils rapportaient, mais là, les visiteurs passaient avant tout le reste. Les chasseurs supportèrent ces assauts de curiosité avec une patience surprenante. Ici, on ne réprimandait presque jamais les enfants. Plus grands, ils subiraient un entraînement rigoureux qui leur inculquerait les éléments fondamentaux de la culture du peuple d'Adobe. L'art de chasser et de trouver de la nourriture, sans oublier la manière d'honorer les esprits. Pour l'instant, on leur laissait la bride sur le cou, libre de jouer autant qu'ils le voulaient et quasiment sans contrainte. Les enfants proposèrent aux chasseurs quelques miettes de nourriture en échange de potins sur les étrangers. Les hommes éclatèrent de rire et refusèrent ce marché, car ils devaient réserver la primeur de leurs informations aux anciens. À peine déçus, les garnements continuèrent à leur tourner autour. L'arrivée de Callan et Richard était l'événement le plus excitant de leur jeune vie. Quelque chose qui sortait de l'ordinaire, avec un délicieux parfum d'aventure et de danger. Sous le toit fort peu étanche d'une des aires délimitées par des poteaux, six anciens attendaient que Savidlin leur amène les étrangers. Vêtus de pantalons en cuir de daim, tous avaient le torse nu, mais une peau de coyote posée sur les épaules. Malgré leurs expressions sévères, Callan les savait beaucoup plus amicaux qu'ils ne le paraissaient. De peur qu'on leur vole leur âme, les hommes d'Adobe ne souriaient jamais aux inconnus avant que les présentations soient faites. Les enfants restèrent à l'écart de la structure ouverte et s'assirent dans la boue pour ne pas perdre une miette du spectacle. Dans les cuisines, les femmes cessèrent de travailler et les hommes qui s'affairaient sur les forges et les tours de potier les imitèrent. Tout le monde se tut en même temps. Apparemment, chez le peuple d'Adobe, toutes les affaires se traitaient en public. Callan avança vers les six anciens, Richard à sa droite, mais un pas derrière elle, et Savidlin à ses côtés.
« La force accompagne l'inquisitrice Callan, » dit le doyen des anciens.
« Qu'elle accompagne aussi Tophalar, » répondit Callan.
L'ancien la gifla doucement, presque une caresse.
Selon la coutume, à l'intérieur du village, on se contentait de ces petites tapes. Les autres, comme celles que Savideline avait flanquées à Richard, étaient réservées aux rencontres imprévues dans les plaines. Cet usage judicieux contribuait à préserver l'ordre et à protéger les dents. Les autres anciens, Serin, Caldus, Arbrin, Brynjinderin et Anjanlet, sacrifièrent les uns après les autres à ce rituel. Callan leur rendit leurs salutations et leurs petites claques. Quand il regardait Richard, Savideline avança en tirant son nouvel ami. Très fier, il désigna ses lèvres tuméfiées. « Richard, souffla Callan, ce sont des hommes très importants. Essaie de ne pas leur casser les dents. » Le sourcier hocha la tête avec un petit sourire.
« Je vous présente le sourcier, Richard au sang chaud, »
dit Savideline, gonflé de fierté. Il se pencha vers les anciens et prit un ton théâtral.
« L'inquisitrice Callan nous l'a amené. C'est l'homme dont vous nous avez parlé, celui qui apporte la pluie. Elle me l'a dit. »
Callan s'inquiéta car il ignorait à quoi le chasseur faisait allusion. Aucun des anciens ne broncha, à part Tophalar qui fronça les sourcils.
« La force accompagne Richard au sang chaud, »
dit-il avant de gifler gentiment son invité.
« La force accompagne Tophalar, »
répondit Richard, qui avait reconnu son nom avant de rendre en douceur sa claque au vénérable vieillard. Callan soupira de soulagement en constatant que le vieil homme avait encore toutes ses dents. Rayonnant, Savideline désigna de nouveau ses lèvres tuméfiées. Tophalar sourit. Quand les présentations furent faites et les gifles distribuées, ses cinq collègues l'imitèrent. Puis, ils firent quelque chose de très étrange. Les six anciens et Savideline s'agenouillèrent devant Richard et inclinèrent la tête. Aussitôt Callan se tendit. « Que se passe-t-il » souffla Richard, alarmé par la réaction de son ami. « Je n'en sais rien, » répondit-elle à voix basse. « C'est peut-être leur façon d'accueillir le sourcier. Je ne les ai jamais vus se comporter comme ça. » Les sept hommes se redressèrent, un sourire aux lèvres. Tophalar leva un bras et fit signe aux femmes par-dessus les têtes de ses hôtes.
« Je vous en prie, »
dit-il à Richard et Callan.
« Prenez place avec nous, nous en serons honorés. »
Callan tira Richard par la manche pour qu'il s'asseye en tailleur près d'elle sur le plancher de bois humide. Les anciens attendirent qu'ils aient fini pour s'installer à leur tour. S'ils remarquèrent que Richard gardait la main près de la poignée de son arme, ils ne le montrèrent pas. Les femmes apportèrent des paniers d'osier remplis de pain de tava et de divers aliments. Sans quitter Richard des yeux ni cesser de lui sourire, elles en proposèrent d'abord à Tophalar, puis aux autres anciens. Elles ignorèrent superbement Callan, qui les entendit murmurer au sujet de la grande taille de Richard au sang chaud et de ses étranges vêtements. Les femmes des contrées du milieu se méfiaient des inquisitrices, qui risquaient de leur prendre leur mari et menaçaient leur mode de vie avec leur étrange façon d'être indépendante. Callan ne se formalisa pas de leurs regards hostiles. Depuis le temps, elle avait l'habitude. Tophalar coupa son pain en trois et en offrit un bout à Richard, puis à Callan. En souriant, une femme tendit à chaque invité une assiette de poivrons frits. Imitant les anciens, les deux jeunes gens en posèrent sur leurs morceaux de pain et en firent un rouleau. La jeune femme s'aperçut à temps que son compagnon, la main droite près de son arme, allait manger avec la gauche. « Richard !» souffla-t-elle. « Ne te sers pas de ta main gauche pour porter la nourriture à ta bouche.
« Pourquoi ?»«
Ces gens croient que les mauvais esprits mangent avec la main gauche. »«
Quel idiot aussi !» grogna le sourcier.
« Richard, s'il te plaît. Ils sont plus nombreux que nous et les pointes de leurs armes ont été trempées dans du poison. Ce n'est pas le moment de se disputer sur la théologie. »
Alors qu'elle souriait aux anciens, Callan sentit le regard du jeune homme peser sur elle, mais du coin de l'œil, elle vit qu'il avait transféré le rouleau de pain dans sa main droite.
« Veuillez pardonner cette nourriture frugale, » dit Tophalar. « Ce soir, nous organiserons un banquet. »«
Non !» s'écria Callan. « Enfin, je veux dire, nous ne voulons pas nous imposer et... »«
Si c'est ce que vous préférez, »
dit l'ancien un peu déçu.
« Nous sommes là parce que le peuple d'Adobe, comme bien d'autres, est en danger. »
Tous les anciens hochèrent la tête en souriant.
« C'est vrai, » dit Serine.
Mais maintenant que vous nous avez amené Richard au sang chaud, tout ira bien. Merci de tout cœur, inquisitrice. Nous n'oublierons jamais ce que vous avez fait pour nous. »
Tous souriaient quasiment extatiques. Déconcerté par la tournure inattendue des événements, Callan mordit dans son rouleau de pain pour se laisser le temps de réfléchir. « Qu'ont-ils dit ?» demanda Richard.
« Pour des raisons que j'ignore, ils sont ravis que je t'ai amené ici. »«
Demande-leur pourquoi. » Callan se tourna vers Tophalar.
« Très honorable ancien, j'ai peur de ne pas tout comprendre au sujet de Richard de Sancho. Pourquoi cette réaction de votre part ?»«
Désolé, cher enfant. » J'ai oublié que vous n'étiez pas là quand nous avons convoqué le conseil des devins. Avec la sécheresse, toutes nos cultures mouraient et la famine nous menaçait. Alors, nous avons demandé de l'aide aux esprits. Ils nous ont annoncé qu'un homme viendrait et apporterait la pluie avec lui. Il a plu et Richard de Sancho est arrivé exactement comme on nous l'avait promis.
Donc, vous êtes heureux qu'il soit ici à cause d'un présage ?
« Non !»
s'exclama Tophalar, soudain très excité.
« Nous nous réjouissons que l'esprit d'un de nos ancêtres nous rende visite !»
Il désigna Richard.
« C'est un homme esprit !»
Callan faillit en laisser tomber son pain.
« Quoi encore ?»
grogna Richard.
« Ils ont invoqué les esprits pour qu'il pleuve. On leur a dit qu'un homme viendrait et leur apporterait des averses. Richard, ils pensent que tu es un de leurs ancêtres, un homme esprit.
Eh bien, ils se trompent.
Mais ils le croient, et ils feraient n'importe quoi pour un esprit, y compris convoquer un conseil des devins, si tu le demandes.
Callan détestait se comporter ainsi. Abuser les hommes d'Adobe lui répugnait, mais il devait apprendre où était la dernière boîte.
Pas question,
répondit le sourcier après une courte réflexion.
Richard, notre mission est capitale. Si leurs croyances peuvent nous servir, pourquoi nous en priver ?
« Parce que ce serait un mensonge. Je ne ferai pas ça.
Tu préfères laisser gagner Darkenral ?»«
Primo, je ne le ferai pas parce qu'il serait ignoble de tromper ces gens sur un sujet qui leur tient tant à cœur. Secondo, ces hommes ont un pouvoir et c'est pour ça que nous sommes là. La preuve à mes yeux, c'est qu'ils savaient qu'un étranger viendrait en même temps que la pluie. Cette partie de la prédiction est vraie. Mais ils ont sauté à une conclusion qui ne l'est pas. Les esprits leur ont dit que le visiteur serait un esprit ?»
Callan secoua la tête.
« Parfois les gens croient des choses simplement parce qu'ils ont envie qu'elles se produisent.
Si c'est à notre avantage et au leur, où est le mal ?
Le problème, c'est leur pouvoir. Imagine qu'ils convoquent un conseil des devins et qu'ils découvrent que je ne suis pas un esprit. Ils nous tueront et Ral aura gagné. »
Callan prit une grande inspiration.
Décidément, Zed avait bien choisi son sourcier.
« L'homme esprit est-il en colère contre nous ?»
demanda Tophalar, visiblement inquiet.
« Richard, il veut savoir pourquoi tu es furieux. Que dois-je leur dire ?»«
Je m'en charge. Contente-toi de traduire. »«
D'accord. » »«
Les hommes d'Adobe sont très sages et très forts. Voilà pourquoi je suis venu. Les esprits de vos ancêtres avaient raison de prédire que j'apporterai la pluie. »
Les anciens parurent ravis par ce que traduisait Callan. Tous les autres villageois écoutaient dans un silence religieux.
« Mais ils ne vous ont pas tout dit, »
continua Richard.
« Comme vous le savez, il en va souvent ainsi avec les esprits. »
Les anciens hochèrent gravement la tête.
« Ils ont pensé que votre sagesse vous permettrait de découvrir la vérité. Ainsi, vous resterez forts comme vos enfants, qui le deviennent parce que vous les guidez, et pas parce que vous leur mâchez tout le travail. » Tous les parents espèrent que leurs petits seront forts, sages et capables de penser par eux-mêmes. »
Il y eut quelques hochements de tête approbateurs, mais assez rares.
« Que veux-tu dire exactement, grand esprit ?»
demanda Arbrin.
Quand Callan lui eut traduit la question, Richard, pensif, se passa une main dans les cheveux.
« Voilà ce que je crois. Il est vrai que j'ai apporté la pluie, mais il y a plus important. » Les esprits ont peut-être vu pour vous un danger pire que la sécheresse, et c'est pour ça que je suis là. Un homme redoutable veut vous réduire en esclavage. Il se nomme Darkenral. »
Les anciens ricanèrent.
S'il nous envoie des crétins comme ce missionnaire pour qu'ils deviennent nos maîtres, nous n'avons rien à craindre.
Quand Richard foudroya les six hommes du regard, les rires moururent aussitôt.
Inciter les gens à être trop confiants est une de ses tactiques. Ne vous y laissez pas prendre. Il a utilisé ses pouvoirs et sa magie pour soumettre des peuples bien plus forts que vous, par le nombre, évidemment. Au moment où ça lui conviendra, il vous écrasera. La pluie est venue parce que les nuages sont chargés de m'espionner. Il veut savoir où je suis pour m'abattre quand il le décidera. Je ne suis pas un esprit, mais simplement le sourcier. Un homme comme vous qui veut arrêter Darkenral pour que votre peuple et les autres vivent librement.
« Si ce que tu racontes est vrai, » dit Tofalar, « c'est Darkenral qui a envoyé la pluie et qui nous a sauvés. Le missionnaire affirmait que son maître voulait nous aider.
C'est faux. Ral s'est servi des nuages pour m'espionner, pas pour vous secourir. J'ai choisi de venir ici, comme les esprits de vos ancêtres vous l'avaient prédit, mais ils n'ont jamais prétendu qu'un esprit vous rendrait visite. »
En traduisant, Kalan remarqua que les anciens se rembrunissaient à vue d'œil. Elle espéra qu'il n'en viendrait pas à la violence.
« Alors, » dit Serin, « le message de nos esprits était peut-être un avertissement contre toi. »
« Ou contre Ral, » riposta Richard. « Je ne mens pas. Si votre sagesse ne vous permet pas de le comprendre, ce peuple mourra. Moi, je vous donne une chance de le sauver. »
Les anciens réfléchirent en silence.
« Tes paroles ressemblent à la vérité, Richard au sang chaud, » dit Tofalar. « Mais le doute demeure. Que veux-tu de nous ?»
Les anciens ne bronchaient pas, toute leur bonne humeur envolée. Les villageois attendaient dans un silence inquiet. Richard dévisagea les six sages avant de reprendre la parole.
« Darkenral veut s'approprier une magie qui le fera régner sur tous les peuples, y compris le vôtre. Mon but est de l'empêcher d'acquérir ce pouvoir. Je veux que vous convoquiez un conseil des devins pour qu'ils me disent où trouver cette magie avant qu'il soit trop tard. Battre Ral de vitesse, voilà mon objectif. »
« Nous ne convoquons pas le conseil des devins pour les étrangers !»
cracha Tofalar le regard dur. Kalan vit que Richard perdait son calme et luttait pour se contrôler. Elle ne bougea pas la tête, mais balaya la foule du regard afin de repérer les hommes armés au cas où ils devraient se battre pour fuir le village. Leur chance n'était pas très bonne, constata-t-elle. Avait-elle eu raison de venir ici avec Richard ? Les yeux brûlants de colère, le sourcier regarda les villageois, puis il se tourna de nouveau vers les anciens.
« Pour me remercier d'avoir apporté la pluie, je vous demande seulement de ne pas prendre tout de suite une décision. Attendez de savoir un peu mieux quel homme je suis. »
Sa voix restait égale, mais nul n'aurait pu se méprendre sur le poids de ses paroles.
« Réfléchissez bien. Beaucoup de vies sont dans la balance, la mienne, celle de Kalan et les vôtres. »
Alors que Kalan traduisait, elle eut soudain le sentiment terrifiant que Richard ne s'adressait pas aux anciens. Il parlait à quelqu'un d'autre, une personne dont le regard pesait sur elle. Sondant la foule, elle constata que tous les yeux étaient braqués sur les deux hommes. De qui sentait-elle toujours le poids du regard ?
« J'accepte ta proposition, » dit enfin Tofalar. « Pendant que nous réfléchissons, Kalan et toi serez nos invités. Faites comme chez vous. Nos maisons et nos vivres sont les vôtres. »
Les anciens se levèrent et se dirigèrent vers les bâtiments communs sans se soucier de la bruine. Les villageois retournèrent à leurs occupations. Au passage, ils firent s'éparpiller les enfants. Savidlin fut le dernier à s'en aller. Avec un beau sourire, il assura à Kalan qu'il était prêt à accourir si elle avait besoin de quelque chose. Elle l'en remercia pendant qu'il s'éloignait déjà. Les deux jeunes gens restèrent assis sur le sol humide, se balançant de droite à gauche pour esquiver les grosses gouttes qui tombaient du toit. Le panier de pain et les assiettes de poivrons avaient été abandonnés là. Kalan se pencha, fourra un morceau de pain et en fit un rouleau qu'elle tendit à Richard, puis elle en prépara un pour elle. « Tu es en colère contre moi ?» demanda le sourcier. « Non, je suis fier de toi, au contraire. » Un sourire de petit garçon sur les lèvres, Richard commença à manger avec la main droite et dévora à belles dents.
« Regarde derrière mon épaule droite, »
dit-il quand il eut fini. Un homme est adossé contre un mur. De longs cheveux gris, les bras croisés. Tu sais qui c'est ?
Callan prit une bouchée de sa préparation et jeta un coup d'œil discret.
On l'appelle l'homme oiseau. Je ne sais rien de plus, sauf qu'il peut faire venir tous les oiseaux à lui.
Richard fourra un autre morceau de pain.
Je crois que nous devons avoir une petite conversation avec lui.
Pourquoi ?
Parce que c'est le chef ici.
Non, les anciens commandent.
Mon frère dit toujours que le véritable pouvoir ne se montre jamais en public. Les anciens sont là pour la galerie. Parce qu'on les respecte, ils servent de façade, comme les crânes sur les poteaux. Sauf qu'on leur a laissé la peau sur les os. Ils incarnent l'autorité parce qu'on les vénère, mais ils ne dirigent rien.
Richard jeta un coup d'œil à l'homme oiseau.
C'est lui le chef.
Alors pourquoi ne s'est-il pas manifesté ?
Pour voir si nous sommes malins.
Richard se leva et tendit une main à sa compagne. Elle finit son morceau de pain, s'essuya les mains sur son pantalon et accepta qu'il l'aide à se remettre debout. Pendant qu'il la redressait, elle pensa à la joie qu'elle éprouvait chaque fois qu'il lui offrait sa main de cette manière. Personne n'avait jamais osé le faire. Entre autres raisons, c'était pour ça qu'elle se sentait si bien avec lui. Ils marchèrent sous la pluie glaciale, pataugeant dans la boue pour approcher de l'homme oiseau. Toujours adossé à son mur, il les regarda avancer vers lui. Ses longs cheveux gris-argent tombaient sur ses épaules et couvraient en partie la tunique en peau de daim assortie à son pantalon. Ses vêtements étaient dépourvus d'ornements, mais un os sculpté accroché à une lanière en cuir pendait à son cou. D'un âge indéfinissable, portant encore beau, il était à peu près de la taille de Callan. La peau de son visage semblait aussi rêche au toucher que le cuir tanné qui composait sa tenue. Quand ils s'arrêtèrent devant lui, il ne changea pas de position. Son genou droit pointa un peu lorsqu'il appuya son pied contre le mur de boue séchée. Il étudia les deux jeunes gens sans décroiser les bras. Richard croisa également les siens.
« J'aimerais vous parler si vous ne craignez pas que je sois un esprit. »
L'homme oiseau regarda Callan pendant qu'elle traduisait, puis il riva les yeux sur Richard.
« J'ai déjà vu des esprits et ils ne portaient pas d'épée. »
Quand Callan eut traduit, le sourcier s'esclaffa. La jeune femme aimait tant sa façon de rire.
« J'en ai vu aussi et vous avez raison, ils ne portaient pas d'épée. »
Avec un petit sourire, l'homme oiseau décroisa les bras et s'écarta du mur.
« La force accompagne le sourcier, » dit-il en flanquant une gifle symbolique au jeune homme,
qui lui rendit son salut et sa claque. L'homme saisit l'os qui pendait à son cou et le porta à ses lèvres. Callan comprit enfin qu'il s'agissait d'un sifflet. Ses joues se gonflèrent quand il souffla dedans, mais aucun son n'en sortit. Laissant retomber le petit instrument, il tendit un bras sans quitter Richard du regard. Un faucon fendit le ciel grisâtre et vint se poser sur son avant-bras. Il battit des ailes pour en chasser les gouttes de pluie, puis les replia. Sa petite tête oscillant de droite à gauche, il dévisagea les deux visiteurs de ses yeux noirs.
« Venez, » dit l'homme oiseau, « nous allons parler. »
Il les guida jusqu'au bâtiment commun et se dirigea vers le moins grand du lot, un peu à l'écart des autres. Même si elle n'y était jamais entrée, Callan savait qu'il s'agissait de la maison des esprits, une hutte sans fenêtre où se réunissait le conseil des devins. Quand l'homme oiseau poussa la porte et les invita à entrer, le faucon resta sur son bras sans broncher. Le petit feu d'un brasero éclairait la salle obscure. Un trou pratiqué dans le toit servait à évacuer la fumée. Mais le système fonctionnait mal et l'atmosphère était embrumée. Sur le plancher, vestiges d'anciens repas, reposaient des coupes en poterie. Le long d'un mur, une étagère supportait une bonne vingtaine de crânes polis par le temps. À part ça, la salle était vide. L'homme oiseau choisit un endroit où le toit ne fuyait pas et s'assit à même le sol. Callan et Richard prirent place en face de lui sous l'œil intéressé du faucon. L'homme planta son regard dans celui de la jeune femme. À l'évidence, il avait l'habitude que les gens aient peur quand il les dévisageait, même s'il n'y avait aucune raison à cela. Callan le comprit parce qu'il en allait de même avec elle. Cette fois, il ne lut aucune angoisse dans les yeux de l'inquisitrice.
Mère inquisitrice, vous n'avez pas encore choisi de compagnon, dit-il en caressant la tête du faucon. Kala n'aima pas son ton et comprit qu'il la mettait à l'épreuve.
C'est exact? Seriez-vous candidat?
Non.
Veuillez m'excuser, je ne voulais pas vous offenser.
Pourquoi n'y a-t-il pas de sorciers avec vous?
Presque tous ont péri. Il n'en reste que deux. Le premier vend ses services à une reine et le second a été frappé par une créature du royaume des morts. Il n'est pas sorti d'un profond sommeil. Il n'y a donc plus personne pour me protéger. Les autres inquisitrices ont été assassinées. Nous vivons des temps bien sombres.
Le regard de l'homme oiseau exprima une sincère sympathie démentie par le timbre de sa voix.
Pour une inquisitrice, il est dangereux de voyager seul.
C'est vrai. Il est tout aussi périlleux pour un homme d'être en face d'une inquisitrice qui désire ardemment quelque chose. De mon point de vue, vous courez plus de risques que moi.
C'est possible, dit l'homme oiseau sans cesser de caresser la tête du faucon.
Cet homme est-il un véritable sorcier? A-t-il été nommé par un sorcier?
Oui.
Voilà des années que je n'avais pas vu un authentique sorcier. Un imposteur est venu jadis au village. Il a tué plusieurs membres de mon peuple parce qu'il refusait de lui donner ce qu'il voulait.
Je suis désolé pour ces malheureux.
C'est inutile car ils sont morts vite. Mais vous pouvez vous lamenter sur le sorcier parce que son agonie fut longue.
Le faucon regarda Kalan d'une étrange façon.
Je n'ai jamais rencontré de faux sorcier, mais j'ai vu celui-là devenir furieux. Croyez-moi, vous auriez tort de lui donner une raison de dégainer son épée. Il sait utiliser sa magie et j'étais là quand il a vaincu des esprits maléfiques.
L'homme oiseau sonda les prunelles de Kalan comme pour évaluer sa sincérité.
Merci de cet avertissement. Je ne l'oublierai pas.
Vous aurez bientôt fini d'échanger des menaces ?
Explosa soudain Richard.
Je croyais que tu ne comprenais pas leur langue ? S'exclama Kalan.
C'est exact, mais je sais lire dans un regard. Si les yeux lançaient des étincelles, cette salle serait en feu.
Kalan se tourna de nouveau vers l'homme oiseau.
Le sorcier demande si nous allons arrêter de nous lancer des menaces à la tête.
Il est bien impatient, il me semble.
Je le lui ai déjà dit, mais il ne me croit pas.
Voyager avec lui doit être pénible.
Pas du tout,
affirma Kalan avec un grand sourire que son interlocuteur lui rendit.
Puis il se tourna vers Richard.
« Si nous décidons de ne pas aider Darkenral, combien d'entre nous tuera-t-il ? » ?»«
Tôt ou tard, beaucoup des vôtres mourront. »
L'homme oiseau cessa de caresser le faucon.
« C'est un argument qui nous inciterait à soutenir Ral, dirait-on. »«
Si vous refusez de m'assister, fit Richard avec un grand sourire, et si vous restez neutre, aussi stupide que ce soit, je considérerai que c'est votre droit. Donc, je ne vous ferai pas de mal. Mais Ral, lui, n'aura pas mes scrupules. Voilà pourquoi je continuerai à le combattre jusqu'à mon dernier souffle, s'il le faut. »
Son sourire envolé, Richard se pencha vers l'homme oiseau.
« Mais si vous vous rangez dans le camp de Ral, et que je finisse par gagner, je reviendrai et... »
Il se passa un doigt sous la gorge, un geste qui n'avait pas besoin de traduction.
L'homme oiseau resta de marbre, mais ne trouva pas de répartie cinglante.
« Nous voulons seulement qu'on nous laisse en paix, »
finit-il par dire.
« Je peux comprendre ça, »
fit Richard en haussant les épaules.
« C'est ce que j'aurais désiré aussi. Mais Ral a tué mon père, et il m'a envoyé des créatures qui ont pris son apparence pour mieux me tromper. Il a aussi lancé des tueurs aux trousses de Kalan. En ce moment, il affaiblit la frontière pour envahir mon pays. Mes deux meilleurs amis, attaqués par ces monstres, dorment d'un sommeil proche de la mort. Ils survivront, mais... qu'arrivera-t-il la prochaine fois que Ral les frappera? Kalan m'a parlé de ses victimes. Il s'en prend aussi aux enfants. Certaines histoires vous feraient vomir.
Et il baissa le ton.
Oui, mon ami. J'aurais moi aussi aimé qu'on me fiche la paix. Le premier jour de l'hiver, si Ral s'est approprié la magie qu'il convoite, il détiendra un pouvoir que nul ne pourra combattre. Alors il sera trop tard.
Quand la main droite de Richard se posa sur son arme, Kalan écarquilla les yeux.
S'il était ici à ma place, il dégainerait cette épée, il obtiendrait votre soutien ou votre tête. »
Il éloigna sa main de l'arme.
« Et voilà pourquoi, mon ami, je ne vous ferai rien si vous me tournez le dos. »
L'homme oiseau resta un long moment silencieux.
« À présent, je sais pourquoi je ne voudrais pas avoir Darkenral pour ennemi.
Ou vous. »
Il se leva, gagna la porte, poussa le faucon à s'envoler et revint s'asseoir.
« Vous semblez dire la vérité, mais je n'en suis pas encore sûr. » De plus, si vous nous demandez de l'aide, il me semble aussi que vous désiriez nous aider, et sur ce point, je vous crois sincère. Un sage cherche du soutien en proposant le sien, pas en usant de menaces ou de ruses.
Si j'avais voulu ruser, je vous aurais laissé croire que je suis un esprit.
L'homme oiseau eut un sourire matois.
Le conseil des devins aurait découvert que c'était faux. Un sage s'en serait douté, alors... Pourquoi avoir dit la vérité? Pour ne pas nous abuser ou à cause du risque d'être démasqué?
En toute franchise, pour les deux raisons.
Merci de votre sincérité.
Richard se rassit bien droit et prit une grande inspiration.
Homme oiseau, j'ai dit ce que j'avais à dire. À vous de juger. Mais le temps m'est compté. M'aiderez-vous?
Ce n'est pas si simple. Mon peuple se fie à moi. Si vous me demandiez de la nourriture, je dirais « Donnez-lui à manger » et on m'obéirait. Mais vous voulez réunir le conseil des devins. Il est composé des 6 anciens et de ma modeste personne. Ces hommes sont âgés et très attachés aux traditions. Jusque-là, aucun visiteur n'a eu le droit de déranger les esprits de nos ancêtres. Ces vieillards iront bientôt dans l'autre monde et ils détesteraient savoir qu'un étranger risque plus tard de les appeler. S'ils rompent avec la coutume, ce fardeau pèsera jamais sur eux. Je ne peux pas leur ordonner de le faire.
Il ne s'agit pas seulement des besoins d'un étranger, intervint Kalan. Nous aider revient à vous aider vous-même.
Au bout du chemin, peut-être, convint l'homme oiseau, mais pas au début.
Et si j'appartenais à votre peuple?
Demanda soudain Richard. Kalan traduisit sans dissimuler sa surprise.
Alors les anciens convoqueraient le conseil pour vous sans violer nos traditions.
Pouvez-vous faire de moi un homme d'Adobe?
Si vous accomplissiez d'abord quelque chose pour mon peuple sans en tirer davantage, pour prouver vos bonnes intentions, et sans promesse de notre part, ce serait possible.
À condition que les anciens soient d'accord. Une fois que je serai des vôtres, je pourrais demander qu'on réunisse le conseil?
Si vous apparteniez à mon peuple, les anciens sauraient que vous avez notre intérêt à cœur et ils tenteraient tout pour vous aider.
Le conseil pourra-t-il me dire où est l'objet que je cherche?
Je l'ignore. Parfois les esprits refusent de nous répondre. Il arrive aussi qu'ils en soient incapables. Même si nous convoquons le conseil, rien ne garantit que nous pourrons vous aider. Mais nous ferons de notre mieux. Je m'y engage.
Richard baissa les yeux. En réfléchissant, il poussa du bout du doigt un peu de poussière dans une minuscule flaque d'eau.
« Kalan, demanda-t-il, connais-tu quelqu'un d'autre qui pourrait nous révéler où est la boîte ?»
La jeune femme n'avait pas cessé de ressasser cette question.
« Oui, mais parmi eux, aucun ne serait plus disposé à nous aider que le peuple d'Adobe. Certains de ces gens nous tueraient pour avoir osé demander. »
« À quelle distance sont ceux qui ne nous abattraient pas au premier mot ?»
Il faudrait 3 semaines de marche vers le nord à travers une région très dangereuse contrôlée par Darkenral.
3 semaines, répéta le sourcier accablé.
Richard, l'homme oiseau ne s'est pas montré très encourageant. Si tu trouves un moyen de les aider, si ça plaît aux anciens, s'ils acceptent que tu deviennes un des leurs, si le conseil des devins obtient une réponse, si les esprits la connaissent, ça fait beaucoup de si et une multitude d'occasions d'échouer.
Ne m'as-tu pas dit que je devrais les convaincre?
« C'est vrai.
Alors, qu'en penses-tu? On essaie ici ou on va chercher ailleurs nos réponses ?»«
Tu es le sourcier. À toi de décider. Mais ton avis pourrait m'être utile. Je ne sais pas que dire. Ma vie dépend aussi de la décision que tu prendras, et je suis sûr que tu feras le bon choix.
Et si je me trompe, me détesteras-tu ?»
Elle regarda le jeune homme dans les yeux.
ses yeux qui lisaient en elle et lui faisaient éprouver des sentiments qui l'affaiblissaient dangereusement. « Même si tu as tort et si ça finit par me coûter la vie, je ne pourrai jamais te détester. »
Richard baissa la tête un moment, sonda la poussière, puis regarda l'homme-oiseau.
« Votre peuple aime avoir des toits qui fuient ?»
demanda-t-il.
« Seriez-vous content que de l'eau s'écrase sur votre visage pendant que vous dormez ?»«
Je vois. Alors pourquoi fabriquez-vous des toits qui ne sont pas étanches ?»«
Parce que nous n'avons aucun matériau valable à notre disposition. Les briques d'adobe seraient trop lourdes et nous tomberaient sur la tête. Le bois est rare, il faudrait aller en chercher beaucoup trop loin d'ici. Nous n'avons que du chaume et ça fuit. »
Richard prit une des coupes et la plaça renversée sous un des trous où gouttait de l'eau.
« Et l'argile qui vous sert pour les poteries ?»«
Nos fours sont trop petits. Impossible d'y cuire quelque chose d'assez grand. De plus, ça se craquellerait et il y aurait aussi des fuites. Non, il n'y a pas de solution. » »«
C'est une grave erreur d'affirmer qu'une chose est impossible simplement parce qu'on ne sait pas la faire. Si j'avais cru ça, je ne serais pas ici. »
Richard ne mit ni agressivité ni ironie dans ses propos.
« Votre peuple est fort et sage. » Je serais honoré que son homme-oiseau m'autorise à lui apprendre comment fabriquer des toits qui ne fuient pas, et qui permettent en même temps de bien évacuer la fumée. »
Impassible, l'homme-oiseau réfléchit quelques instants.
« Si vous réussissez, ce serait très bon pour mon peuple et il vous en serait reconnaissant. Je ne peux rien promettre de plus. »
« Je ne vous le demande pas. »
La réponse sera peut-être négative quand même. Vous devrez l'accepter et ne pas attaquer les miens.
« Je m'efforcerai de les aider. En échange, je veux qu'ils me jugent équitablement. Rien de plus. »«
Alors je vous autorise à essayer. Mais je ne vois pas comment fabriquer un toit en argile qui ne se craquelle pas et n'a pas de fuite. »«
Pour la maison des esprits, j'en ferai un qui aura 1000 craquelures mais ne fuira pas. Ensuite, je vous montrerai comment en faire d'autres. »
L'homme-oiseau sourit et hocha gravement la tête.